Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques et la politique, l'argent et le dopage.
Les Jeux Olympiques sont le meilleur moyen de se faire la guerre sans tuer personne. Pierre de Coubertin.
Ans d'histoire. Depuis les premiers Jeux d'Athènes en 1896 jusqu'à ceux qui vont commencer à nouveau à Athènes le 13 août prochain, en 108 ans, les Jeux olympiques modernes ont bien changé, pour le meilleur et pour le pire. Devenus, grâce à la télévision et à la radio, le plus grand spectacle du monde, ils sont aujourd'hui contaminés par la politique, par l'argent et par le dopage, et n'ont plus grand-chose à voir avec ce que voulait Pierre de Coubertin, lorsqu'à la fin du XIXe siècle, il avait entrepris de restaurer une des plus vieilles compétitions sportives du monde. Celle qu'un roi grec, Iphitos, avait organisée en 884 avant Jésus-Christ, pour mettre un terme, le temps d'une trêve, à la guerre qui opposait sa cité à celle de Sparte. 2800 ans plus tard, un baron français, Pierre de Coubertin, décidait de restaurer les anciens jeux des Grecs en invoquant les mêmes principes que ceux qui avaient inspiré ses très lointains prédécesseurs. Pierre de Coubertin, en 1936.
La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distingue les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus.
Henri Charpentier, Alain Bidouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les auteurs d'un livre, Péril sur les Jeux Olympiques, un livre qui n'est pas une histoire des Jeux, que vous connaissez bien tous les deux, mais qui est un peu, au fond, la façon dont ils se sont écartés des grands principes sur lesquels Coubertin les avait restaurés, pour en faire, on vient de l'entendre, une espèce de religion. Est-ce qu'on peut dire, Henri Charpentier, des Jeux Olympiques d'hier ou d'aujourd'hui, qu'il s'agit d'une religion ?
Pourquoi pas ? Parce qu'une religion, après tout, c'est un rendez-vous de tout un ensemble de gens pour un office, pour une grand-messe. Et cette grand-messe, elle a lieu, effectivement, tous les quatre ans. C'est le rendez-vous de la fête de la jeunesse, de l'amitié, de la fraternité, pour un seul but, la paix, à la limite. On pourrait parler de cette volonté de faire la paix. On l'a entendu en tout début de l'émission, d'ailleurs. On ne se fait pas la guerre. Et puis ici, dans un souci universel, aujourd'hui, 40 milliards de téléspectateurs, c'est énorme.
Alain Bidouin ?
Oui, par rapport à cette idée de religion, on pourrait parler du Comité Olympique International, qui comprend, vous le savez peut-être, 115 dignitaires, 115 membres du CIO.
113 grands prêtres, en fait.
Voilà, en quelque sorte, on les compare à des cardinaux qui vénèrent un président qui est une sorte de pape de l'olympisme. On parle du siège du CIO à Lausanne comme d'un Vatican. Et on y pratique effectivement la religion du sport et de l'olympisme.
Alors justement d'ailleurs, parce que les premiers Jeux ont eu lieu à Athènes en 1896, mais l'idée de Coubertin de restaurer les anciens Jeux, qui était effectivement une religion, elle date d'avant. D'ailleurs, il n'était pas le premier, mais c'est en 1894, c'est-à-dire il y a presque exactement 110 ans à un jour près, puisque c'était le 16 juin 1994 qu'a été créé le CIO, l'ancêtre du CIO, ça s'appelait, je crois, le Comité international, qui donc préparait les premiers Jeux d'Athènes 2 ans plus tard, en 96. Cela dit, il a eu des difficultés, Coubertin.
Oui, il a toujours eu des difficultés. D'abord, il lui a fallu imposer son idée. Et ça n'a pas été très facile. Alors, il a compris qu'il avait besoin des hommes politiques. Et il a utilisé, justement, tout son savoir en matière d'éducation de la jeunesse et de sa renommée, déjà naissante à l'époque, pour aller voir les politiques et leur dire « Il faut m'aider à promouvoir ces Jeux Olympiques. Donc il est allé voir un homme qui s'appelait Félix Faure, qui est devenu président de la République. Il a d'ailleurs fait un congrès du Comité international olympique au Havre, ville dont était originaire Félix Faure en 1897. Donc déjà, à la limite, il a mis le doigt dans un engrenage qui prouve aujourd'hui, qui démontre aujourd'hui que la politique est toujours présente.
Et tout ça pour préparer les premiers Jeux d'Athènes en 1896, le berceau bien sûr des anciennes Olympiades. Alors il y avait à ces premiers Jeux 43 épreuves sportives pour 295, je crois, participants. Mais alors, pas encore de femmes, et pour cause, M. de Coubertin n'y était pas favorable.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Alors, pas très féministe, on vient de l'entendre, le baron de Coubertin. Heureusement, ça a changé depuis. Cela dit, c'était un des principes de Coubertin, parmi beaucoup d'autres qu'il avait d'ailleurs énumérés à la fin du 19e siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, le rêve de Pierre de Coubertin, nourri de culture hellénique, est de faire renaître les jeux grecs, les jeux anciens. Rien, dit-il, dans l'histoire ancienne ne m'avait rendu plus songeur qu'Olympie, cette cité de rêve, épurée et grandie par la notion de patrie, qui possédait là une réserve de force vitale. Alors, dit-il, pourquoi la France ne réussirait-elle pas à en reconstituer les splendeurs ? Alors, vous le voyez, Coubertin, tout en rêvant de Grèce antique, n'oublie pas la France, la patrie et les forces vitales. Mais l'idéal olympique de Pierre de Coubertin, d'esprit aristocratique et chevaleresque, on peut le dire, a d'abord une vertu sociale. Les Jeux doivent forger une élite qui servira de modèle à la masse. Pour que 100 se livrent à la culture physique, dit-il, il faut que 50 fassent du sport. Pour que 50 pratiquent le sport, il faut que 20 se spécialisent. Et pour que 20 se spécialisent, il faut que 5 soient capables de prouesses étonnantes. Pour Pierre de Coubertin, en effet, le sport a toutes sortes de vertus, physiques bien sûr, mais aussi morales et sociales. Le sport, dit-il, apportera à la famille le renfort d'une santé reconquise et entretenue par le plaisir sain. Le sport sera l'unique remède efficace contre l'alcoolisme. Autre vertu, selon lui, assez surprenante, le sport est aussi un facteur éminent des entreprises coloniales, ou encore le sport épurera les lettres et tuera l'érotisme, ce cancer littéraire. Et Pierre de Coubertin l'affirme haut et fort, je rebronzerai une jeunesse veule et confinée, son corps et son caractère, par le sport, ses risques et même ses excès. Mais son projet n'est pas qu'hygiéniste et moralisateur. J'élargirai la vision de la jeunesse, dit-il, par le contact des grands horizons, planétaires et historiques, qui, engendrant le respect mutuel, deviendront un ferment de paix internationale. Et tout cela, ajoute Pierre de Coubertin, sans distinction de naissance, de caste, de situation et de métier. Bon, et les femmes, on l'a entendu tout à l'heure, Pierre de Coubertin n'est pas très en avance là-dessus. Sur son temps, il déclara en 1935 encore, le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle. Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Voilà. Il n'empêche, le projet de Coubertin se veut démocratique. Le sport, dit-il, apparaît comme une incarnation de la démocratie, car il est par excellence l'école où se coudoient l'entraide et la concurrence. Tandis qu'en haut de la pyramide, les Jeux Olympiques, dit-il, constituent une manifestation pédagogique qui doit centraliser la pensée collective des peuples.
Un commentaire, Henri Charpentier, sur les principes donc, du fondateur des Jeux Olympiques modernes.
Je reviendrai sur les femmes, parce qu'il faut savoir quand même que Coubertin a évolué, même s'il disait encore en 1935 qu'il était contre les femmes, il a laissé faire. Même s'il était président, il a accepté l'évolution. En 1900, une femme est devenue championne olympique. Elle s'appelait Charlotte Cooper. C'était en tennis. En 1912, à Stockholm, on a accepté la présence des femmes en natation. Certaines d'entre elles étaient accompagnées obligatoirement d'un chaperon pour les surveiller, notamment Wilhelmine Willy, qui a été la première championne olympique de natation. Et puis en 1928, les femmes sont arrivées dans le sport roi des Jeux en athlétisme. C'était à Amsterdam. Eh bien, Coubertin était encore bien vivant, et c'était encore avant les propos qu'il a tenus et que nous avons entendus tout à l'heure.
Mais sur la façon, au fond, tout peut se résumer en cette formule, il faut promouvoir le sport.
Voilà.
Bon, pourquoi ? Oui, Alain Villouin.
Pierre de Coubertin, effectivement, était avant tout un humaniste et un visionnaire. Donc, il avait pour grand objectif de rassembler et de créer une unité grâce au sport dans le monde entier, c'est-à-dire la fraternité entre les jeunes du monde entier et grâce au sport.
Donc, il y avait aussi la volonté de paix, hein, on l'a entendu dès le début, y compris dans ces textes, ça permettait au fond, c'était une espèce de dérivatif pour que les peuples, au lieu de s'affronter par la guerre et dans le sang, bah, le fassent sur des terrains de sport.
Oui, car il voyait, si vous voulez, grâce à la pratique du sport, l'épanouissement de l'être humain, c'est-à-dire un corps sain dans un esprit sain, et c'était hérité des théories anglaises d'Arnold, sur l'éducation, et tout ça s'est inspiré bien sûr des anglo-saxons.
Et pourtant, Pierre de Coubertin va encourager les Jeux Olympiques les plus contestés de l'histoire, les 11e Jeux ouverts solennellement à Berlin par quelqu'un qui n'était pas particulièrement un pacifiste, Adolf Hitler, en 1936.
C'est avec un intérêt de tous les instants que je suis la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques.
Et c'était, on a entendu Hitler ouvrant les 11e Jeux Olympiques à Berlin le 1er août 36, avec la bénédiction, on a entendu, de Pierre de Coubertin, et puis pratiquement sans qu'aucun pays, d'ailleurs, ne renonce. Il y a eu quelques sportifs qui ont renoncé, mais aucun pays pratiquement n'a renoncé à venir. C'est assez curieux, parce que les nazis, au début, étaient plutôt hostiles aux Jeux Olympiques. Berlin avait été choisi en 1931, et le parti nazi avait déclaré dans son journal, quand Hitler arrivera au pouvoir, le remue-ménage olympique disparaîtra de l'Allemagne. Or, quand il arrive au pouvoir en 33, c'est-à-dire 3 ans avant les Jeux, eh bien au contraire, Hitler va en profiter pour les exploiter de manière politique. On a même appelé ça les Hitlériades.
Oui, c'est Goebbels, son roi de la communication, qui a eu l'idée d'utiliser les Jeux Olympiques pour la propagande nazie. Et pour la petite histoire, sachez par exemple simplement qu'il y avait un virage du stade qui a été entièrement réservé au SA de sinistre mémoire pour les applaudissements à chaque fois, donc il y avait quelque chose qui se passait dans le stade, ils assuraient la claque en quelque sorte. Et puis il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, 440 fois on a pu entendre l'hymne nazi, le Horst-Wessel-Lied, alors qu'on a entendu 33 fois l'hymne allemand pour les 33 victoires.
J'ajoute que le même journal qui détestait les Jeux Olympiques disait « Les nègres n'ont rien à faire aux Olympiades » et malheureusement c'est un nègre, comme disaient les Allemands, c'est Jesse Owens qui a remporté 4 médailles, le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres, je crois, et la longueur. Enfin bref, mais cela dit, bon, la politisation des Jeux, ça n'a pas attendu Hitler, ça commençait, dites-vous, dès la guerre de 14, Henri Charpentier.
Oui, dès 1920, aux Jeux d'Anvers, l'Allemagne et l'Autriche ont été exclus parce qu'on considérait qu'ils étaient les fautifs de cette guerre de 14-18. En 1924, juste un petit détail, l'Italien Romeo Bertini, qui termine deuxième du marathon, bien, salue avec le salut fasciste à l'arrivée du marathon et remercie son duce Benito Mussolini. Et puis en 1932, à Los Angeles, il y avait déjà des frictions entre l'Allemagne et la France, des frictions politiques. Eh bien, les Américains ont estimé qu'il était préférable de faire défiler les deux délégations qui étaient à l'origine l'une derrière l'autre, partagé, divisé par la délégation britannique pour éviter qu'ils ne se rencontrent de trop près.
Et puis alors, il faut rappeler que la première guerre, c'est pour ça que je disais 14 tout à l'heure, la première guerre a empêché les Olympiades de 1912, la deuxième guerre a supprimé également 2 Jeux Olympiques, ceux de 40 et ceux de 44. Alors cela dit, avec la guerre froide, on va voir à nouveau s'affronter, même pacifiquement, mais s'affronter et politiquement, les États au moment de la guerre froide, Alain Milouin.
Oui, complètement, parce que vous savez qu'après la guerre de 40, on est entré effectivement dans la guerre froide, et que le monde s'est trouvé véritablement sur une sorte de poudrière. On a même redouté une guerre nucléaire avec l'affrontement entre les pays occidentaux et l'URSS et ses satellites. Donc ça a duré quand même très longtemps, pratiquement jusque dans les années 90, quoi, quand l'arrivée de Gorbatchev, la détente. Mais auparavant, il y a eu tous ces boycotts de Moscou, de Los Angeles.
À Moscou, il faut rappeler, les Américains et leurs alliés, pour la plupart d'entre eux, sauf la France, avaient refusé de venir en 1980. Du coup, les Russes ont refusé de venir à Los Angeles en 1984. Alors justement, Los Angeles apparaît une autre menace, qui est l'argent, hein, lorsque pour la première fois, les Jeux sont entièrement financés non plus par des États qui les accueillent, mais par des capitaux privés, comme le voulait d'ailleurs le nouveau président du CIO, Juan Antonio Samaranch, avec les conséquences que l'on peut deviner. France Inter, Alain Passerelle, le 14 décembre 1998.
Le CIO, le Comité international olympique, dans la tourmente après les accusations de l'un de ses membres, le Suisse Marc Odler, qui a révélé avant-hier l'existence d'une corruption à grande échelle, liée notamment aux procédures de candidature à l'organisation des Jeux olympiques. Selon lui, entre 5 et 7%, c'est précis, des 115 membres du CIO seraient réceptifs à la corruption. Et les désignations des villes d'Atlanta, Sydney, Nagano et Salt Lake City auraient été entachées d'irrégularités. Je vous propose d'écouter ce matin la première réaction du président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch. Il ne réfute pas, a priori, les accusations de Marc Odler.
Nous sommes devant des faits. On doit aller en avant. On a mis une commission d'enquête.
Est-ce qu'on peut parler de corruption ?
Je crois qu'avec les nouvelles que nous avons dans ce moment, possiblement, oui.
Est-ce que ça veut dire que certains membres pourraient être exclus du CIO ?
Écoutez, s'il y a quelques membres que sa conduite n'était pas appropriée, c'était pas correcte, oui. Oui, mais dans la charte olympique, c'est bien clair.
Alors, c'était le président du CIO en 1998, Juan Antonio Samaranch, qui dénonçait lui-même une corruption dont il était pourtant un peu à l'origine. Certes, dans le cas qu'on vient d'entendre, c'était des municipalités qui avaient payé quelques membres du CIO. Mais de façon générale, les capitaux privés, c'est Samaranch qui les a introduits, Alain Bidouin.
Oui, bon, il faut considérer qu'à partir des années 80, donc juste après les Jeux de Moscou, quand Antonio Samaranch arrive au pouvoir, il y a une grande révolution qui se produit. D'ailleurs, il y a un congrès à Baden-Baden, et on commence à revoir un petit peu la charte olympique, on réfléchit sur l'amateurisme, sur le professionnalisme, et également des possibilités de voir arriver des capitaux au sein du CIO, car les Jeux olympiques deviennent effectivement un spectacle grandiose, Et l'organisation devient colossale et il faut beaucoup d'argent.
Il faisait ça, disait-il aussi, pour rendre autonome l'organisation des Jeux et pour qu'elle ne dépende plus des seuls États, justement, parce qu'il y avait politisation. Alors du coup, ça passe au fond entre les mains d'entreprises privées, Henri Charpentier.
Oui, d'ailleurs, Samaranch lui-même, en 1996, l'a avoué, il dit « Le mouvement olympique a besoin de la commercialisation, car il a besoin d'argent, mais le sport doit être, dit-il, dirigé par les gens du sport. » Donc il savait bien qu'il y avait un risque à ce moment-là d'être débordé complètement par l'argent. Et celui qui avait tout vu dès le départ s'appelle Pierre de Coubertin. En 1925, il a dit « Les sports se sont développés au sein d'une société que la passion de l'argent menace de pourrir jusqu'à la moelle. »
Mais justement, il le dénonçait. Ça, on peut dire que c'est vraiment une entorse justement au principe de Coubertin, cette introduction de l'argent. Et puis alors, dans des proportions énormes, à la fin de votre livre, vous citez quelques chiffres. Par exemple, les droits de télévision, c'est une des ressources les plus importantes des Jeux olympiques. Ils ont été multipliés par 17, dites-vous, depuis 1980. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 100 millions de dollars à 1 milliard 700 millions. Bon, évidemment, c'est énorme, ça, Alain Bidouin.
Oui, c'est colossal. Et puis, on s'est surtout rendu compte que c'était plus ou moins l'Amérique qui prenait le pouvoir et qui détenait les clés de la banque olympique, puisque 80% des capitaux qui ont été fournis au CIO l'étaient par non seulement les grandes chaînes de télévision américaines, mais également par des grands sponsors comme Coca-Cola, McDonald's, entre autres.
Aujourd'hui, sur les 11 multinationales qui sont les sponsors officiels, les grands sponsors du mouvement olympique, 7 sont américaines. Ouais. C'est énorme.
Alors justement, cet argent, bon, il va où ? Parce qu'il y a aussi un autre principe auquel était très attaché Coubertin, c'était l'amateurisme. C'était le grand principe. Dans le passé, énormément de sportifs ont été suspendus, justement, ou se sont vus privés de médailles parce qu'on les soupçonnait de ne pas être des amateurs. Là, ils touchent de l'argent.
Oui, mais alors, donc c'est très intéressant ce que vous dites, là, parce que il ne faut pas imaginer que le CIO, dont le siège est à Lausanne, en Suisse, capitalise tout cet argent dans les banques suisses. C'est vrai que l'argent est entreposé là, mais il est redistribué très rapidement, non seulement vers les comités d'organisation des Jeux Olympiques pour les prochains Jeux, donc pour aider les villes organisatrices à bien organiser les Jeux. Cet argent va également vers les fédérations internationales, vers les comités olympiques. Il existe également un fonds qui s'appelle la solidarité olympique pour pouvoir aider les pays sous-développés et qui voudraient donc améliorer donc leur structure et leur possibilité de développer le sport chez eux.
Mais est-ce que cet argent qu'investissent des capitaux privés, Henri Charpentier, ça rapporte quelque chose? On dit beaucoup, par exemple, que les villes, quand elles financent toutes les installations comme Athènes en ce moment, on se demande d'ailleurs si ce sera terminé à temps, mais est-ce qu'on dit parfois qu'elles perdent de l'argent.
Oui, alors, on ne peut pas dire qu'on perd de l'argent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des déficits. Et malgré, justement, maintenant, tout ce qu'on a mis en place pour surveiller un peu mieux ce qui se passe, depuis 1976, depuis l'époque de Montréal, où là, il y a eu un déficit énorme et le stade pas terminé, car on a fait des Jeux Olympiques dans un stade pas terminé en 76, c'est là où l'argent était intéressant au départ. On s'est dit, si on amène de l'argent, on aura des Jeux qui vont plus être déficitaires, qui vont être bénéficiaires. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont bénéficiaires. Mais ça reste quand même énorme, la dette à combler une fois que les Jeux sont passés. Et je pense qu'à Athènes, là où il y avait le moins d'argent, et que l'Europe, pourtant, a donné beaucoup d'argent, ben je pense qu'à Athènes, il y aura des problèmes après les Jeux.
Bref, en tout cas, comme vous le dites dans le sous-titre de votre livre, en paraphrasant la devise olympique, hein, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Là, on va peut-être trop fort et peut-être aussi trop vite, comme ce fut le cas aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.
Bonjour, à Séoul, stade olympique ce matin, 5h30, heure française, 9 secondes 79 centièmes de frisson pour une finale du 100 mètres à vous couper le souffle.
Et voilà, c'est parti, le départ irrégulier, un départ en trombe de Ben Johnson qui est en tête pour l'instant. À mi-parcours, il a 2 mètres d'avance, car Lewis est battu. Champion olympique Ben Johnson, 9 secondes, 79 centièmes, c'est le record du monde. C'est le record du monde, il est battu, il a remporté cette course, il a mené de bout en bout Ben Johnson. Il avait fantastiquement caché son jeu, c'est bien le meilleur sprinter du monde, c'est bien le meilleur sprinter de tous les temps.
Et Ben Johnson était surtout le sprinter le plus dopé des Jeux Olympiques. Je crois qu'il en a perdu sa médaille, Alain Bilouin, tout de suite après, on s'en est rendu compte.
Oui, on peut dire que c'était une sorte de cataclysme qui est tombé sur le monde de l'olympisme et en plein Jeux Olympiques, c'était à Séoul en 1988. Donc il y a quand même eu, à partir de cette affaire extraordinaire, une prise de conscience que le dopage était en train de se développer, et les années suivantes, on assistait quand même à une accélération. Alors on a vu que le spectacle sportif qui devenait de plus en plus grandiose générait aussi des dérives, parce que pour fabriquer des performances, pour fabriquer un spectacle, eh bien, les athlètes en venaient donc à des extrémités et à ces dangers et à ces dérives du dopage.
Henri Charpentier.
Et aujourd'hui, Jacques Rogge, l'actuel président du CIO, celui donc qui est en charge de maintenir les rênes du mouvement olympique, a déclaré, il n'y a pas tellement longtemps, le 28 mai 2002, « Le dopage est à un niveau inacceptable. Je suis conscient que nous ne gagnerons jamais la guerre, mais il faut à tout prix en réduire la portée. » Et cette année même, au siège de l'UNESCO à Paris, au début, le 28 janvier, il a tout simplement dit que tous les échelons de la pyramide étaient touchés. Et le président de l'Agence mondiale antidopage, le Dick Pound, un ancien membre du CIO, a carrément dit qu'aujourd'hui, le dopage, à terme, pouvait tuer les Jeux Olympiques.
C'est dit, c'est une affaire assez ancienne. J'ai lu quelque part qu'au jeu de 1904, à Saint-Louis, le vainqueur du marathon, qui s'appelait Fred Lors, avait été disqualifié, non pas parce qu'il était dopé, mais parce qu'il avait fait la moitié du trajet sur le marchepied d'une voiture.
Oui, il avait trouvé une solution de facilité et de repos. Il était monté pendant 9 kilomètres dans une voiture. Mais le vainqueur lui-même, Hayes, a gagné la course. Mais à l'époque, il avait réussi à la terminer parce qu'il avait abusé un petit peu du cognac et de la strychnine, un mélange détonnant.
Déjà, hein.
Oui, bon. Déjà à l'époque.
Sauf qu'il n'y a pas de contrôle antidopage.
Il n'y avait pas de contrôle, évidemment, à l'époque.
Alors, autre danger qui pèse sur les Jeux, et cela depuis Munich en 1972, le terrorisme. Bon, là encore, il s'agit d'une politisation des Jeux. Mais alors là, c'est un danger de plus en plus grand, à l'évidence. Hein. On voit que, par exemple, depuis à Séoul, je crois qu'il y avait plus de 100 000 policiers et militaires pour comme mesure antiterroriste, et c'est de pire en pire aujourd'hui à Athènes. Est-ce que c'est pas ça le vrai danger actuel et le plus important, ce qui pèse sur les Jeux, Alain Bilouin?
Oui, bien sûr. Bon, on a vu les dangers de l'histoire ancienne, c'est-à-dire les guerres. Après, nous sommes entrés dans une autre période, celle de la guerre économique, en quelque sorte, avec les pouvoirs de l'argent. Mais le danger politique est toujours présent de nos jours, comme vous l'avez dit, c'est le terrorisme. Alors là, le comité international s'est complètement organisé, et puis les pays organisateurs également. Le problème, c'est qu'avec le terrorisme, vous le savez, il est au coin de chaque rue, et qu'on ne le maîtrise pas et qu'on ne le voit pas venir. Mais des forces de police considérables ont été mobilisées pour Athènes. Il y aura à peu près 50 000 militaires et policiers et des services secrets qui vont opérer. Et je pense que la protection maximale sera faite.
Alors tous les deux, Henri Charpentier et Alain Milouin, hein, vous dénoncez bien, on vient de l'entendre, et aussi dans votre livre, toutes les menaces qui pèsent sur les Jeux Olympiques, sur l'esprit de Coubertin, hein, qui s'éloigne de plus en plus, qu'il s'agisse de la politisation, de la corruption, du dopage, du terrorisme. Et pourtant, dans votre livre, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir des Jeux, Henri Charpentier.
Optimiste parce qu'on croit à cette fête universelle de l'amitié entre les jeunes, parce que c'est une fête de la jeunesse et qu'il faut qu'elle se poursuive. Et pour qu'elle se poursuive, il faut absolument adopter des réformes. Le président Jacques Rogge, qui a pris en main le mouvement olympique il y a maintenant 3 ans, disait lui-même qu'il fallait réformer, diminuer le gigantisme des Jeux, donc diminuer le budget, enfin faire beaucoup de choses qui permettent au CIO, au mouvement olympique, de survivre. Mais pour l'instant, on n'a toujours rien vu venir. On espère qu'on pourra le faire quand on sera à Paris, si Paris obtient les Jeux. Pourquoi ? Parce que c'est à Paris qu'on a le plus besoin, qu'on pousse le plus, justement, à éviter le dopage, à réglementer de plus en plus fermement les règles du mouvement olympique, et puis surtout qu'on essaye de faire quelque chose de moins coûteux, comme le voulait Coubertin.
Merci Henri Charpentier et Alain Milouin. Je rappelle que vous êtes tous les deux les auteurs de Péril sur les Jeux Olympiques, un livre publié aux éditions du Cherche Midi et préfacé par Jean Lacouture. Pour plus de renseignements et d'autres livres sur les Jeux Olympiques, vous pouvez contacter le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Destacan. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.